direkt.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Des décrets signés à tour de bras, à peine investi président des États-Unis, Donald Trump enchaîne les annonces, les décisions politiques et elle marque déjà l'orientation de son mandat avec des mesures notamment contre l'immigration illégale. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol témoigne pour la première fois à son procès. Et puis en Martinique, aux Antilles, le procès aujourd'hui du chef du mouvement contre la vie chère, Rodrigue Petitot, il est jugé pour violation du domicile du préfet. L'âge d'or de l'Amérique commence. La promesse de Donald Trump lors de son discours d'investiture. Le républicain est devenu le 47e président des États-Unis après en avoir été le 45e. La cérémonie d'investiture s'est déroulée devant un parterre de 600 invités hier dans le Capitole et non pas en dehors à cause du froid glacial à Washington. Donald Trump a aussitôt tourné la page Joe Biden en signant une cascade de décrets assortis de plusieurs annonces qui donnent le ton pour les 4 années à venir. Résumé avec Guillaume Nodin.
L'image est saisissante. Donald Trump est dans le bureau ovale et sur sa table de travail sont empilés de nombreux parapheurs. Il signe et signe encore en expliquant aux journalistes présents ce que contiennent les dossiers. Sorti des accords de Paris sur le climat, comme il l'avait fait lors de son premier mandat avant que Joe Biden les réintègre, le jeu du va-et-vient continue donc. Annulation de certaines décisions prises par son prédécesseur, comme le retrait de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme 2 jours plus tôt, ou encore les limitations des forages en mer. L'un des décrets favorise l'extraction des énergies fossiles, gaz, charbon et pétrole. En dehors de la question énergétique, le dossier migratoire fait partie des priorités. L'état d'urgence est déclaré à la frontière sud et les cartels sont ajoutés à la liste des organisations terroristes. Il veut aussi redéfinir le droit du sol avec l'intention annoncée d'y mettre fin, bien qu'il soit inscrit dans la Constitution et que cela annonce de féroces batailles juridiques. Enfin, comme il le promet depuis des mois et des mois, Donald Trump signe des grâces massives pour les émeutiers condamnés du 6 janvier 2021, qualifié par lui dans l'après-midi d'otage et qui passe donc d'une signature du statut de criminel à celui de victime. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et le président américain annule également les sanctions contre des colons israéliens accusés de violence en Cisjordanie occupée. À l'instant, l'autorité palestinienne réagit et accuse le président d'inciter les colons à la violence. On a évoqué l'état d'urgence décrété à la frontière mexicaine. Donald Trump met en place une promesse de campagne. Et avec ce décret sur l'état d'urgence, des milliers de personnes de l'autre côté de la frontière se retrouvent perdues, sans option. Reportage dans la ville frontalière de Ciudad Juárez, Gwendolina Duval. Gwendolina Duval qu'on va entendre dans un instant sur ce décret de Donald Trump sur l'état d'urgence à la frontière mexicaine. On a retrouvé le reportage de Gwendolina Duval.
Non mon fils, nous ne pouvons plus passer. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Cette femme vient d'apprendre qu'elle ne pourra plus déposer une demande d'asile aux États-Unis malgré son rendez-vous programmé cet après-midi.
Je trouve que c'est injuste. Ce matin encore, des personnes sont entrées. Pourquoi, à nous, on ne nous donne pas cette chance ? Pourquoi ?
Comme une centaine d'autres personnes qui attendaient depuis tôt ce matin, Yaledi a eu l'espoir d'être parmi les dernières à bénéficier du programme CBP One.
Je crois que c'est fini, ça. L'application ne fonctionne même plus.
Elle raconte que le programme a cessé quelques instants seulement après le premier discours de Donald Trump. Comme cette Vénézuélienne, des milliers de migrants encore au Mexique sont désormais dans l'inconnu, la plus totale.
J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, 7 mois de ma vie ici, dans ce pays, à perdre de l'argent et de l'énergie.
Dans le centre-ville de Ciudad Juárez, Carly Fernandez vient aussi de recevoir un courriel d'annulation de son rendez-vous prévu en février. Elle essaye de convaincre sa famille de rester un peu en espérant qu'une solution viendra dans les jours à venir.
On a tant lutté pour arriver là. Il faut attendre encore pour voir. Ma sœur veut rentrer. Elle fatigue de tout ce qu'on a enduré pour arriver ici. Pour rien.
Au Mexique, on s'interroge désormais de savoir quand arriveront les expulsés de Donald Trump et combien seront-ils. Gwendolina Duval, Ciudad Juárez, RFI.
RFI, 18h04 à Séoul, en Corée du Sud. Le président Yoon Suk-yeol répond pour la première fois aux questions à son procès en destitution suite à la loi martiale qu'il avait tenté d'imposer. Et les partisans du président continuent de le soutenir, ce qui a entraîné des scènes violentes ces derniers jours avec une émeute au palais de justice. Et cette fois, Celio Fioretti, ce sont des journalistes qui sont pris pour cible.
MBC,
NBC dehors, la chaîne publique est devenue l'ennemi des partisans du président Yoon Suk-yeol. Réunis devant la cour constitutionnelle où le président se défend aujourd'hui pour la troisième audience de son procès, ses soutiens fustigent les médias qu'ils accusent d'être responsables de la crise, comme l'explique cette femme.
Les médias coréens sont tous de gauche. NBC est sans doute le média le plus mensonger. Pourtant, ils fonctionnent grâce aux fonds publics, mais servent uniquement une idéologie de gauche. C'est à cause d'eux qu'on en est là.
Des mots, mais aussi des actes. Depuis dimanche, les journalistes des chaînes télé NBC, JTBC ou encore KBS sont frappés et voient leur matériel endommagé par les manifestants. Des violences rares en Corée du Sud que les manifestants commencent à accepter, comme cet homme.
Personnellement, je pense qu'ils méritent ce qui leur arrive. Avec tous leurs mensonges et leurs manipulations, je pense que NBC méritait ce qui est arrivé. Nous avons attaqué des journalistes poubelles, mais ils vont encore dire que ce sont des victimes.
Devant le tribunal, les journalistes coréens font profil bas. La plupart viennent couvrir discrètement les manifestations dans lesquelles ils ne sont plus les bienvenus. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Et lors de cette audience, Yoon Suk-yeol a démenti tout à l'heure avoir demandé à l'armée d'évacuer du Parlement les députés opposés à la loi martiale. Vous l'avez entendu ce matin sur RFI, le fils de Muammar Kadhafi sort de son silence. Saïf al-Islam Kadhafi a donné un entretien exclusif à RFI, entretien écrit dans lequel il donne sa version dans l'affaire sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français et justement jugé en ce moment dans cette affaire. Saïf al-Islam Kadhafi affirme que Nicolas Sarkozy a reçu à l'époque 5 millions de dollars en espèces et dit aussi avoir été depuis approché 3 fois par le clan Sarkozy pour qu'il revienne sur la déposition faite au juge français. Les avocats de Nicolas Sarkozy nient ces accusations en bloc. Le détail est à lire sur notre site internet. Au Sénégal, les choses se précisent quant à la fermeture des bases militaires françaises, des fermetures qui seraient effectives d'ici l'été 2025 selon plusieurs sources militaires. Après la visite du général Pascal Yanni à la tête du commandement Afrique, correspondance à Dakar de Léa-Lisa Westerhoff.
Le calendrier proposé par la France est le mois de septembre pour remettre la principale et dernière base militaire française aux forces armées sénégalaises. Rien n'est arrêté encore, mais voilà ce qui ressort d'une visite de courtoisie du général français Pascal Yanni à la tête du commandement pour l'Afrique, au chef d'état-major sénégalais, le général Mbaye Cissé, en fin de semaine dernière. Pour l'heure, un peu plus de 200 militaires et leurs familles résident au camp Jey, la base militaire du centre-ville, et une vingtaine sur la base de Rufisque, en banlieue de Dakar. Les mouvements de mutation se font à l'été au sein de l'armée, confirme une source militaire française. Pour des raisons familiales et logistiques, septembre est donc l'échéance logique pour la fermeture de ces deux bases. Restent ensuite 3 autres emprises, 2 près du port et 1 dans la base navale sénégalaise, toutes les 3 vides et fermées depuis avril et juin 2024, affirme l'armée française. La prochaine étape devrait être la reprise de discussions techniques sur la suite. Aucune date n'a encore été fixée, mais des deux côtés, on se dit confiant. Le principal enjeu étant désormais de décider si et sous quelle forme se poursuivra la coopération militaire entre la France et le Sénégal. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
En France, un procès qui vient mettre en lumière la crise politique et sociale sur l'île de la Martinique, celui de Rodrigue Petitot, chef du mouvement contre la vie chère, qui a mené de nombreuses actions pour demander une baisse du coût de la vie sur place. Il sera jugé avec 3 autres accusés dans l'affaire dite de l'intrusion à la villa préfectorale à Fort-de-France, Peggy Saint-Ville.
En novembre dernier, 4 membres du RPRAC menés par Rodrigue Petitot ont pénétré dans la résidence du préfet de la Martinique pour demander une audience à François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer du gouvernement Barnier. Ils souhaitaient exprimer leur agacement face à, selon eux, un manque de considération de l'État. Cet acte a divisé, une provocation dangereuse pour certains, un geste de résistance légitime pour d'autres. Le préfet, 2 policiers et 3 autres agents ont porté plainte menant à l'arrestation de Petitot. La justice veut établir les responsabilités des accusés qui se défendent en plaidant une action non violente autorisée par les forces de l'ordre présentes à l'entrée. En raison du nombre élevé de prévenus, l'audience durera 2 jours. Plus qu'une simple affaire pénale, ce procès soulève des questions sur l'ordre public et la liberté d'expression. Il entend répondre au mouvement revendicatif, source de troubles sociaux. Un dispositif policier important est attendu ainsi que de nombreux manifestants. Peggy Saint-Ville, Fort-de-France, RFI.
RFI 10h10 à Paris 9h10 en temps universel à suivre. Priorité santé avec Caroline Paré.
Merci Marion Cazanov.